Chapitre 52. Les deux femmes suivent Stéphane lorsqu'il entre avec son bagage dans l'une des pièces. Il constate que le tissu noir est couvert de traînées de poussière gris clair. Il a dû heurter la voiture lorsqu'il l'a sortie du coffre. L'appel d'air, quand ils ont passé le seuil de la porte, a fait se soulever un poster représentant une femme luisante sur une table de massage. Stéphane utilise du midazolam comme anesthésiant. La solution intraveineuse peut être administrée par voie orale, mais le délai d'action est plus long. Il déballe le matériel nécessaire sur la table de nuit, se redresse et tend deux enveloppes épaisses à poux. Son regard est vide lorsqu'elle les accepte. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur, puis va les ranger dans le coffre-fort du placard à balai avant de revenir dans la chambre. « Vous êtes prête ?» demande-t-il. Pou se tient immobile, les bras croisés. Elle semble très tendue, son visage est en sueur. Nina, elle, semble sur le point de pleurer. Il a déjà préparé deux petites bouteilles de café glacé avec les anesthésiques et de la morphine afin de soulager la douleur et l'angoisse. Il a légèrement augmenté les doses, mais il a aussi apporté du flumazénil comme antidote au cas où quelque chose tournerait mal. Commencez par boire ça. Ce n'est pas franchement bon, mais c'est un médicament très utilisé, dit-il en leur tendant à chacune une bouteille. Nina l'attrape, l'air abattu, puis elle la porte à sa bouche tout en respirant rapidement et avec anxiété. Pou écarte quelques tresses de son visage d'un geste nerveux, comme si elle essayait de trouver le courage de sauter d'un plongeoir. « Je vais y arriver. » murmure-t-elle en avalant une grande gorgée. « Nina ?» dit Stéphane en souriant. Nina prend une profonde inspiration. « Bois, tous, bois encore, puis essuie les larmes sur ses joues. « Dégueulasse !» dit Pou en avalant la dernière gorgée. Quand Nina a fini, Stéphane reprend les bouteilles, les fourre dans sa valise et dit aux deux femmes que le pire est passé. Les joues de Stéphane sont brûlantes et sa vision est redevenue floue. Il doit cligner plusieurs fois des yeux pour distinguer les aiguilles sur le cadran de sa montre. Pou s'approche de Nina et la prend dans ses bras pour la rassurer. Elle pose ensuite sa joue contre sa poitrine, lui caresse les cheveux et regarde Stéphane avec des yeux complètement neutres.
« J'ai froid aux pieds »,
se plaint Nina. Sa bouche tremble, mais elle parvient à retenir ses larmes. Stéphane a apporté un appareil de mesure de dioxyde de carbone, un tensiomètre, un oxymètre et un électrocardiographe, mais il ne pense pas qu'il utilisera ces appareils cette fois-ci. « Je pense que vous devriez vous allonger confortablement dans le lit », dit-il lorsqu'il constate que la morphine a commencé à faire effet. « Il faudra un peu de temps avant que le produit agisse, mais je vais rester assis à côté de vous. » Nina esquisse un petit sourire lorsqu'elle voit qu'elle peine à enlever ses sandales. Les deux femmes s'allongent l'une à côté de l'autre, les jambes croisées et les yeux rivés au plafond. Dans quelques secondes, l'anesthésie les endormira, ce qui lui donnera un accès total à leur corps. Il regarde sa montre, entend leur respiration devenir plus lente, plus lourde et plus régulière. Nina bafouille quelques mots avant de plonger dans le sommeil. Son portable tombe à terre, à côté du lit. Entre la housse de protection en plastique et l'appareil sont rangées quelques photos des membres de sa famille. Stéphane s'avance vers Nina et prend sa petite main dans la sienne. Elle est chaude et sans vie. Son pouls est déjà dangereusement bas et il se dit qu'il devrait vraiment vérifier leur oxygénation. À présent, tout est immobile. Il lève les yeux et regarde les deux femmes, leur corps calme et leur visage absent. Elles sont maintenant au-delà des faux-semblants et des jeux de pouvoir. Ses mains tremblent lorsqu'il remonte le t-shirt de Nina, qu'il regarde ses seins presque inexistants. Ses lèvres pâles sont entrouvertes. Il sent son souffle contre le dos de sa main. De fins vaisseaux sanguins sont visibles sur ses paupières arrondies. Il pince fortement son téton, tout en observant son visage relâché. Elles n'ont plus de volonté, plus de force de résistance, ne ressentent plus aucune douleur. Il baisse sa culotte en même temps que son jogging et regarde ses poils pubiens tout aplatis. Lorsqu'il la retourne sur le ventre, elle ressemble à un petit garçon en début de puberté. Il passe à bout. Sa fierté et sa colère se sont effacées de son visage. Il relève la commissure de ses lèvres avec ses doigts. « C'est comme ça qu'elle doit être », pense-t-il, en retirant sa jupe moulante et en la jetant par terre. Il remonte son débardeur noir au-dessus de sa tête. Celui-ci se coince dans ses tresses et il doit le retirer d'un coup sec. Une perle de verre rebondit sur le sol. Il n'aime pas ses seins gonflés et lui laisse son soutien-gorge rouge bien qu'il ne lui plaise pas non plus. Elles ne savent pas ce qu'il va faire. Elles ne le sauront jamais. Elles se sentiront juste un peu endolories et anxieuses après coup. Stéphane retire son pantalon marron clair et ses sous-vêtements. Les pose sur le dossier de la chaise. Déboutonne sa chemise. S'approche de Pou et presse son pénis semi-rigide contre sa bouche épaisse. Puis le fait glisser sur son visage et l'appuie contre un de ses yeux. Il lui retire sa culotte. Elle est rasée, mais les poils ont un peu repoussé au niveau de l'aine. Il replie son genou gauche, incline sa cuisse et regarde sa vulve fermée couleur argile. Il met quelques gouttes d'acétotartrate d'aluminium sur un coton, écarte ses lèvres et les lave soigneusement. Son cœur bat maintenant plus vite. Son pénis se remplit de sang, se raidit et se redresse. Les capsules articulaires des os pelviens de la jeune femme grincent lorsqu'il écarte ses cuisses au maximum, qu'il s'allonge sur elle et la pénètre. Son sexe est serré et très sec, sans aucune lubrification vaginale. Il se dit qu'il devrait faire des injections de relaxants musculaires à Pou pour pouvoir enfoncer sa main entière. En faisant des mouvements de va-et-vient avec son bassin, il regarde Nina se balancer au gré des oscillations du matelas. Elle a un grain de beauté proéminent entre les omoplates. Un filet de salive s'écoule de sa bouche pressée contre le matelas. Stéphane s'arrête, se retire, puis s'allonge sur Nina et enfonce brutalement son sexe dans son anus. La sueur coule de ses aisselles et sur son torse. Son cœur s'emballe et son érection devient presque douloureuse. Un bruit sourd se fait subitement entendre contre la porte d'entrée comme lorsqu'un oiseau fonce dans une fenêtre. Stéphane tord l'un des bras de Nina dans son dos, l'attrape par la nuque, la serre de toutes ses forces tout en la pénétrant de plus en plus violemment. La fiche bombée est aspirée par le mur et des moutons de poussière dansent par terre. Serrant toujours le cou de Nina, il entend maintenant des pas légers dans la salle d'attente. Il s'arrête, regarde par-dessus son épaule et a le temps de penser à Ramon X avant de réaliser qu'une jeune femme se tient devant lui. Elle se déplace rapidement et est aussi grise qu'un insecte sous un rocher. Stéphane se retire en lâchant un « putain, c'est quoi ce bordel ?» en même temps qu'une forte détonation lui déchire les tympans. Son dos le brûle comme si on lui avait balancé de l'eau bouillante. Et la seconde suivante, il tombe du lit et se cogne l'épaule sur le sol tout en s'entendant émettre un grognement guttural. Ses jambes le suivent telles des pattes molles qui glisseraient d'une casserole. Il sent un crépitement dans sa tête. Il a reçu une balle dans le dos, dans l'une des vertèbres thoraciques supérieures. La moelle épinière est endommagée. Il sait qu'il sera paralysé. Le sang s'écoule par jets sur le sol. Sa colonne vertébrale doit être immobilisée. Il faut qu'on l'opère en urgence. « Je paierai », allait-il en crachant du sang à cause de son poumon perforé. Sa chemise déboutonnée est enroulée autour de son torse. Il regarde le bas de son corps nu qui baigne dans une mare de sang. Son pénis est devenu un tout petit nœud au-dessus de ses testicules. La femme pointe un pistolet rouge brillant sur le visage de Pou. Mais au lieu de tirer, elle quitte précipitamment la pièce. En s'aidant de ses bras, Stéphane parvient à se retourner sur le ventre et commence à ramper. Il est lourd et son cœur bat beaucoup trop vite. Il ne sent plus le bas de son corps. Ses jambes inertes se traînent derrière lui. Il essaie d'atteindre son portable dans son pantalon posé sur la chaise. Il s'arrête pour souffler et cracher du sang. Puis tend un bras, mais n'arrive pas à atteindre les pieds de la chaise. Tout en poussant des gémissements, il tente d'atteindre le tapis en PVC pour le tirer vers lui. Son champ de vision se rétrécit. Comme à travers une paire de jumelles mal alignées, il voit sa main se tendre et toucher du bout des doigts l'un des pieds de la chaise. La femme revient. Elle traîne un câble d'acier à travers la pièce, l'enroule autour de ses chevilles et ferme le nœud coulant avec le crochet du treuil. « Tu veux quoi ?» souffle-t-il. Elle ne répond pas. Elle s'approche de la chaise, fouille dans ses vêtements, prend son portable et quitte de nouveau la pièce. Il laisse retomber sa tête par terre, ferme les yeux et réalise qu'il est en train de se vider de son sang sur le sol d'un salon de massage à Tensta.